Bonjour, bonjour. Spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 161, mercredi 4 avril 2018. Et oui, cela fait 50 ans que Martin Luther King a été assassiné à Memphis, mais ça, cela a été l'objet de l'émission de la semaine dernière, une émission diffusée à 11h. Là, aujourd'hui, nous reprenons bien nos marques à 14h05, un peu de retard, mais bon. Donc voilà, réécoutez l'émission 160 si vous souhaitez avoir des renseignements sur Martin Luther King, exposition qui est à la Bibliothèque de Lyon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Michel Chomara que nous recevons, ni Julien Adelard, c'est Philippe Forget, chef d'orchestre, qui va être ténor, voilà, chanteur, qui va chanter des textes de Satie. Ce sera le spectacle Riez sans qu'on sache, donné au Théâtre des Marronniers, pas tout de suite, mais cela vient incessamment, du mardi 24 avril jusqu'à la semaine suivante, peut-être le samedi... Samedi 5 mai, 6 mai, 7 mai. Nous allons rechercher l'enseignement et puis ben, écouter l'émission jusqu'à 15h pour en savoir plus sur ce spectacle et puis notamment, bien entendu, sur ce chef d'orchestre ténor, bassoniste, maintes cordes à son arc, d'autres projets encore à venir. Philippe Forget est notre invité. Jusqu'à 15h, comme tous les mercredis, nous allons écouter un premier titre qu'il nous a recommandé, Toc Toc, chanté par Joséphine J'ai deux amours Baker. Gérald est présent, Christophe Roland au micro. Nous sommes sur Radio Canu, c'est le 102.9 de la bande FM à Lyon, ou bien c'est radiocanu.org. Donc commençons par Joséphine Baker et puis ensuite Philippe Forget jusqu'à 15h comme tous les mercredis.
Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
Continuons à toc-toquer.
Toc-toc!
Qui est là?
Orphée!
Orphée qui?
Orphée le melodie.
Toc-toc!
Qui est là?
José!
José qui?
J'osais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même.
Toc-toc!
Qui est là?
Jean!
Jean qui?
Jean! Oh, j'en sais rien!
Toc-toc!
Qui est là?
Paris!
Paris qui?
Ici la sortie.
Ah.
Toc toc.
Qui est là?
Amboise.
Amboise.
Amboise moi sur la tête, j'ai les cheveux sucrés.
Toc toc.
Qui est là?
Dans ton
qui?
Dans ton cœur il y a deux amours.
Toc toc.
Qui est là?
Dans ton
qui?
Dans ton nez il y a deux trous.
Toc toc.
Qui est là?
Dans la capucine, vive le temps, vive le temps.
Oh, c'est pas si bien celle-là, mais ça ne fait rien. J'ai un mieux, vous allez s'entendre. Toc, toc.
Qui est là?
Bonaparte.
Bonaparte qui?
Bon appartement à louer.
Toc, toc.
Qui est là?
Ahmed.
Ahmed qui?
Ah merde, alors je m'en rappelle plus.
Les plaisanteries les plus courtes sont toujours les meilleures.
Ah, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Alors, j'ai compris. Toc, toc.
Qui est là?
Simon.
Simon qui?
Simon, je vous amuse. Continuez-le.
Toc, toc. Qui est là? Un titre de Joséphine Baker. Extrait de la compilation The Very Best of Joséphine Baker, c'était le disque One, et c'était donc Toc Toc Partout, Knock Knock.
Bonjour à tous.
Bonjour Gérald.
Bonjour.
Bonjour Philippe, c'était votre choix, donc voilà, à vous la parole tout de suite. Pourquoi cet univers un peu particulier, musical des années 20, alors que moi je vous ai présenté là, il y a 2 minutes comme étant un chef d'orchestre, bassoniste ainsi que ténor. C'est un peu spécial, mais je vous en prie, voilà, vous avez jusqu'à 15h pour vous présenter, enfin non, peut-être première partie d'émission, votre portrait, puis après nous évoquerons ce rire sans qu'on sache. Gérald, il va falloir qu'on retrouve les dates précises.
24 avril.
Mardi 24 avril jusqu'à la mi-mai. Je vous en prie Philippe Forget.
Eh ben, voilà, donc bassoniste, non, il y a longtemps quand même, bassoniste, ça c'est fini. Hein. Mais j'ai eu été, voilà, et puis le rapport à la voix, ça c'est super important, et puis qui dit la voix, dit les mots, texte, donc ça c'est important aussi. Alors après, ben, chef d'orchestre, ça fait tout de suite queue de pie, un peu classieux, et un peu, voilà, mais il est question de musique, hein, principalement, donc dans mes amours au pluriel, il y a la relation avec le théâtre musical, avec le musical, et puis à Lyon, il y a eu des belles rencontres depuis quelques années, Jean Lacornerie, avec qui on partage ça, justement, pour la comédie musicale, les années 20, les années 30. Donc ouais, je trouvais sympa de vous offrir un peu de Josephine Baker pour commencer.
Ah oui, oui, Lady in the Dark, il a monté cela au théâtre de la Renaissance, c'était pas à
l'époque,
Croix-Rousse.
C'était la Renaissance, exactement.
Il y a de ça 10 ans, je crois.
Exactement.
Et oui, c'est Lady, quoique non, c'est un peu plus tardif, hein, je crois, c'est le compositeur...
C'est Kurt Weill.
Oui, c'est ça.
C'était un peu plus tardif, mais il y a 2-3 ans, avec Jean, on a monté un opéra, je ne sais pas si c'est un opéra, enfin, tous les cas, c'est une pièce de théâtre musical de Boris Blacher, donc ça, c'est pas le nom qui fait venir les gens.
Roméo
et Juliette,
mais
ça fait venir les gens.
Reçu Philippe Forget. Auditeur, constaté à quel point les émissions sont préparées. Nous avons reçu Jean Lacornerie pour parler de ce spectacle. Moi, j'avais manqué le début. J'étais arrivé un poil un peu après la première partie. C'était bien, c'était toi, oui. Gérald, qui avait vu c'était le spectacle depuis le début et qui avait trouvé ça très bien.
C'était très sympa, c'est pas un opéra, c'est pas une comédie musicale, c'est du théâtre musical, voilà, il y a de la musique un peu expressionniste, il y a du cabaret à l'intérieur, et on était très heureux avec Jean de redonner un petit coup de jeune à cette œuvre pas très connue.
Alors, vous le savez, auditeur, c'est l'instant un peu, il faudrait le nommer comme ça, psychanalytique. Oui, nous cherchons à remonter. Non, mais molle. En fait, la simple question, c'est Philippe Fauvage. Forget, c'est comment vous est venu ce goût? Parce que moi, volontiers, hein, Gérald et moi, nous vous écoutons parler de ces différentes rencontres que vous avez faites avec différentes personnes. Très bien, des artistes que nous connaissons, que nous estimons, mais vous, pourquoi,
le déclic.
Pourquoi ce titre Knock Knock et puis le déclic et puis je ne sais pas le basson
musical.
Et puis voilà,
il faut embrasser la carrière de musicien chanteur.
Oui. On va le faire dans l'autre sens. Je suis pas né dans une famille de musiciens. Ils étaient pas très favorables à ça. Voilà, bon, c'est comme ça. Et du coup, le basson, c'est pas compliqué. C'est là où il y avait de la place au conservatoire. Donc ça s'est pas fait par un amour immodéré de l'instrument. C'est ça m'a permis de me socialiser musicalement avec d'autres, avec cet instrument qui est un bel instrument au demeurant. Hein.
Qualifiez-le tout de suite, c'est l'instrument pour les auditeurs, pour tout
c'est
le monde.
C'est le basson, c'est le grand-père d'Empire et le Loup.
Voilà,
c'est le basson
comme ça,
qui fait le grand-père d'Empire et le Loup. Voilà, absolument. Et puis après, qui dit basson dit pas beaucoup de répertoire, donc dit par contre, faut aller dans l'orchestre très très vite. Donc j'ai joué beaucoup dans les orchestres, et là je trouvais ça super d'avoir cette palette de couleurs à disposition avec plein de monde autour, c'était vraiment génial. Puis je me suis dit, quand même, le gars qui est devant, là, qui
a
ce type. Ah, c'est sympa, ouais. Ça donne l'impression d'être un cuisinier devant. Les ingrédients pas possibles.
Le gars, dites-vous, est-ce que vous avez rencontré quelques femmes chefs d'orchestre?
Peu. C'est bien là le problème. Hein. C'est que ces dames, elles étaient pendant longtemps cantonnées au rôle de chef de chœur, qui prépare les chœurs pour les chefs d'orchestre.
C'est comme la cuisine finalement. Il y a que des grands chefs hommes jours très bonnes, c'est les femmes qui la font.
Mais c'est affolant parce qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas beaucoup de femmes chefs d'orchestre. Enfin, il y en a, mais elles ne sont pas reconnues. On a l'impression quand on les invite que c'est un truc anecdotique, quoi, que c'est pittoresque. Donc c'est assez débile.
Mais les quelques femmes dont on parle généralement sont. C'est le top niveau, non? J'ai en tête Laurence Equilbet, ou bien à Lyon, on a pu avoir parfois Graziella Contrato. Ce sont des.
Oui, mais c'était quand?
Et puis,
ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus à Lyon.
Il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre, une chef, quelle nationalité? Finlandaise, je crois.
Qui était à l'ONL.
Géorgienne, je crois.
Oui, qui était à l'auditorium.
Géorgienne, qui.
Bon, ça existe en tout cas, c'est rassurant.
Bien sûr que ça existe, mais ce serait bien qu'on ne les invite pas.
Marine Alsop aussi, je crois, australienne, je ne sais plus.
Que tous les 10 ans.
Voilà, puis il ne faut pas les inviter parce que c'est des femmes.
Oui, voilà.
Donc vous voyez le chef d'orchestre...
Homme.
Oui, en l'occurrence.
Voilà. Mener son orchestre.
Et je me dis, c'est sympa de faire qu'on arrive à dynamiser, à emmener dans un imaginaire qui est le vôtre, à créer des synergies entre tous ces gens, et puis il se passe quelque chose qui est une émulation extraordinaire. Donc ouais, cet aspect de coordination et de communiquer de la patate à tout le monde, ouais, ça me branche bien.
Il sert vraiment à quelque chose, hein, si des auditeurs, auditrices hésitaient encore ou se demandaient à quoi servait le chef d'orchestre, ce qui m'est arrivé aussi très souvent de me demander à quoi
si
il
c'est
servait.
Juste, si c'est juste
que personne ne le regarde.
Mais non, bien sûr. Bah alors, si, du coin de l'œil.
Ouais,
mais voilà.
De l'œil.
Mais si je dois juste commenter ce que j'ai sous les yeux en disant à la trompette, c'est forte, et le gars il va me dire, bah oui, c'est écrit. Donc il faut les emmener un petit peu plus loin, mais c'est le boulot.
Il y a toutes les heures qui précèdent le.
Bah oui, puis c'est le boulot du metteur en scène avec des comédiens, voilà. C'est le boulot du coach
direction
sportif,
absolument,
absolument. Donc faut les emmener sur un imaginaire, faut donner de l'enthousiasme à tout ça, et c'est vraiment extraordinaire.
Vous n'avez pas rencontré, au contraire, de figures un peu, je ne sais pas moi, trop autoritaires ou pas très intéressantes ou
non. Ah bah, si tout le temps.
Non,
ça peut arriver parce que c'est pas un exercice d'autorité la direction d'orchestre.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a une légitimité qui vous est donnée, c'est une fonction. Faut en faire quelque chose. Voilà, c'est tout.
C'est un mandat quasiment.
Ouais, absolument. Moi, je me sens plus chef d'orchestre quand je descends du podium. La répète, elle est finie. Je suis plus chef d'orchestre. Je suis musicien.
On n'est pas chef d'orchestre à vie ou le temps d'un concert, d'une interprétation. Comme président, quoi. Il y en a qui ont tendance à croire qu'après eux le déluge, qu'ils vont être président toute leur vie. C'est un peu dangereux, ça.
Peut-être. Mais il y en a aussi qui croient qu'ils sont chef d'orchestre. Mais un pianiste, il peut montrer plein de trucs au piano. Un chanteur avec la voix. Mais un chef d'orchestre sans orchestre, il ne peut pas montrer grand-chose. Donc, il vaut mieux être un peu raisonnable par rapport à ces motivations-là.
Et alors, ça passe par beaucoup de conversations, beaucoup de propos, beaucoup d'indications lorsque vous dirigez
Je trouve qu'il ne faut pas parler trop.
Non, pas trop.
Non, parce que ça donne l'impression de se justifier. Mais il faut essayer des choses dans le geste. C'est de la bienveillance aussi. Il faut donner des autorisations aux musiciens. Il faut les regarder, il faut leur sourire. De toute façon, eux, ils ont à jouer, hein, moi pas. Hein. Donc, au moment du concert, c'est eux qui serrent les fesses. Hein. Moi, un peu aussi, mais pas tant que eux. Il faut que je les aide à faire ce qu'ils ont à faire. Voilà.
Dans les meilleures conditions possibles.
Bah, c'est le but.
Humaine, artistique.
Ah, bah, humaine et artistique, c'est indissociable. C'est indissociable. Après, voilà, il y a des endroits dans le métier où on apprend davantage les choses. C'est plus complexe et plus technique de faire de l'opéra que de faire du symphonique. Symphonique, on est un peu le seul maître à bord, mais à l'opéra, il y a plein de paramètres et d'autres corps de métier. Il n'y a pas que la musique.
Oui.
Et tout ça, c'est génial. C'est une alchimie qui est super.
Donc, le basson est terminé.
Depuis, le basson, il n'y a pas des géraniums dedans, mais c'est pas loin quand même.
Bon, ouais. Mais.
Et vous avez donc carrière de chef d'orchestre. Vous rencontrez, je crois, notamment ces grands artistes français, Patricia Tchoffi, français, oui, enfin, ou presque, ou disons qu'ils sont amenés à chanter en France.
On l'entend bien.
Patricia Tchoffi, mais Laurent Naouri, me semble-t-il, c'est ça aussi,
oui,
je crois.
Oui, oui.
Et lors de différentes. Allez, je vous en prie, je crois, c'est la question que s'apprêtait à poser Gérald, c'est-à-dire, depuis cette fonction de chef d'orchestre que vous avez eue, vous ne vous êtes pas cantonné à ce poste, vous êtes également passé. Lorsque le concert a lieu, les chanteurs sont placés un peu derrière, c'est ça, je crois, ils sont derrière le chef d'orchestre. Ou d'ailleurs, même, avez-vous chanté en concert ou davantage avec piano? Parce que, bref, nous allons arriver à ce spectacle grillé sans qu'on sache d'Éric Satie, Philippe Forget. Donc, comment est-ce que vous devenez ténor?
D'abord, c'était aussi pour apprendre à travailler avec des chanteurs. Parce que c'est quand même mieux quand on veut parler à des chanteurs de savoir ce qu'ils ressentent. Quand on dit les sensations, le ressenti, on parle bien des sens. Donc moi j'aime bien aussi être un petit peu connecté à ça. Puis j'ai fait beaucoup de travail en direction des chœurs amateurs. Et ça, je renie pas ça, je suis né là-dedans. Donc les chœurs amateurs, il y a des gens qui lisent la musique, puis il y a des gens qui lisent pas du tout la musique. Donc si vous leur dites le fa dièse il est un peu bas, ça leur fait une belle jambe. Hein. Puis il va rester bas longtemps.
Où, le fa dièse.
Donc le but c'est de parler de couleurs, de sensations. Donc voilà. Donc je me suis mis à faire du chant et puis travailler quelques années dans des ensembles pro, je suis arrivé à Lyon par le biais des chœurs et solistes de Lyon, c'était Bernard Tétu à l'époque, chantait à Arcis-Bourgogne, voilà, et j'ai voulu garder ça parce que ce lien à la poésie notamment et au sens du texte, et puis faire du son soi-même quand on est sur scène, ça c'est super important. Je pense que pour diriger, j'ai quelques étudiants, pas beaucoup, mais je leur dis, vous n'avez pas le droit de vous mettre devant un groupe si vous-même vous savez plus produire un son.
Il faut pratiquer possible. Soi-même pour être rester en phase avec les autres.
Ouais,
peut-être
c'est ça, connecté, au sens et à la responsabilité que ça, que ça induit. Alors il y en a qui sont pianistes, il y en a qui sont clavecinistes. Moi j'ai gardé le chant et je suis bien content avec ça.
Arcis-Bourgogne, Pierre Cao,
oui.
ce nom vous parle. Est-ce que vous auriez été sur scène à la Chapelle de la Trinité en 2008 ou 2009 pour chanter une passion? Je crois que c'était la Saint-Mathieu. Dans le cadre du festival de musique baroque qui depuis, nous le savons depuis la semaine dernière, depuis deux semaines, hein, Éric Desnoux, je me trompais Gérald, la semaine dernière c'était Michel Chomara pour la bibliothèque, donc Éric Desnoux venu parler des grands concerts baroques. Passion, on les a vus la semaine dernière. Oui. Moi, j'ai vu la Saint-Jean le lendemain l'auditorium. C'est bien la semaine sainte. Ça permet de donner un peu de concert. Donc oui, Arcis Bourgogne, vous avez chanté dans ces chœurs
ou, et j'ai chanté avec Pierre Cao. Alors c'était drôle.
2008-2009.
Et ben juste l'année d'avant.
Ah.
Où on a fait le Messie et on a fait une tournée avec le Messie en Espagne. Ça m'a mis sur les genoux. C'était épuisant. Et là, je me suis dit plus jamais. Donc il faut que je vive ça, mais différemment et. Mais c'était ouais, ça fait partie des ensembles avec lesquels j'avais travaillé à l'époque.
Sur les genoux,
c'est sur les genoux pour une
quand
passion.
On fait le Messie.
Oui, une passion aussi, ça va bien.
Je sais pas si on vous a bien demandé la musique. Comment y venez-vous tout de même? Vous indiquez basson, c'est pour c'est le seul instrument qui restait, je crois, c'est ça, ou c'est pour socialiser
la place.
Mais pourquoi venez-vous à la musique? C'est
Il y a de l'émotion, il y a de la couleur, c'est palpable.
C'est votre choix? C'est vous qui demandez à l'âge de 5-6 ans à vos parents, je voudrais faire de la musique?
Oh ben ouais, j'ai pris un peu le taureau par les cornes, mais non, il y a quelque chose à fabriquer, il y a un objet artisanal à faire, ça me plaît bien.
Et la scène, le théâtre?
Ah bah alors aujourd'hui je le sais, je le savais pas avant, moi j'ai besoin d'un théâtre, hein. C'est pas que faire de la musique, c'est la notion du théâtre, les odeurs de la coulisse, des loges, c'est une passion ça.
L'art total.
Ah ben oui, mais moi je suis très à l'aise dans une maison où il y a des techniciens, des costumiers, des éclairagistes, voilà, ça c'est vraiment super. Pas juste être dans sa loge et puis arriver parce que le régisseur vous dit dans 2 minutes. Mais c'est bien de partager les choses un peu en direct et l'esprit de troupe, ça c'est génial. Mmh. Voilà. Donc la musique ça a aussi contribué à nourrir cet esprit de troupe très très vite.
Qu'on retrouve dans le cabaret plus peut-être que dans d'autres formes.
Ben, j'aime bien l'esprit des
traits. Grandiose, grandiloquente.
Ouais, j'aime bien l'esprit des
traits. Grandiloquente, pardon.
Mais j'aime bien cet esprit de très tôt, c'est-à-dire on est riche de plein de trucs et puis on se dit tiens on va essayer quelque chose là maintenant tout de suite et puis la chose expérimentale a une vraie valeur si elle est bien désirée par tout le monde au même moment. Alors ça c'est pas mal justement pour ça.
Moi j'avais un autre nom, Olivier Py. Enfin voilà, il me venait. Oui, vous avez été amené à faire des choses ensemble.
On s'est rencontrés,
des spectacles.
Ouais, j'étais sur une Carmen qu'Olivier montait ici à l'Opéra de Lyon.
À Lyon?
Ouais, absolument.
De 3 ans, 3-4 ans, je ne
sais plus. Ouais, puis il y a eu une reprise après, effectivement. Ouais. Mais effectivement, il faut continuer à avoir des expériences en direct. Voilà. Les improvisateurs, ça date pas d'hier. Les improvisateurs, c'est juste des gens qui ont un bagage musical monstrueux et qui sont capables de faire quelque chose sur l'instant. Mmh. Alors, des fois, on a des disques d'improvisation. C'est presque dommage parce que c'est pas fait pour, en principe. Mmh. Mais dans le théâtre, c'est pareil. Alors, dans le théâtre musical, il n'y a pas de raison non plus. Voilà. Et les compositeurs comme Satie, moi, ce qui me fascine, c'est que ça va de la chanson de cabaret à la petite pièce de piano, mais complètement insolite. On se demande bien comment il s'est levé le matin.
Et avant-gardiste à souhait.
Ah, mais complètement. Jusqu'à la pièce d'orchestre, un peu. Enfin, très élaborée, pas un peu, pardon, très élaborée, très ciselée. Voilà, on a le droit de tout ça.
Est-ce qu'on pourrait dire que Satie, on y viendra plus après, un peu plus en détail, mais c'est un peu notre Courtevaille français ou pas?
Ah, c'est encore un peu plus foutraque que Courtevaille.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il s'est abstrait de tout. Il ne voulait pas vivre à Paris, il vivait à Arcueil. En même temps, il ne daignait pas être reconnu quand même dans les salons parisiens, mais sans vouloir y traîner ses guêtres trop longtemps. Et puis, il lâchait du matériau brut, et puis c'était vous allez vous débrouiller maintenant avec ça. Bonsoir. Voilà. Et il n'y a pas de retour de reconnaissance, même si on s'en doute, c'est pas à négliger non plus. Mais il y a une vraie volonté de surprendre, d'être pile là où on sait qu'il n'était pas censé être, quoi.
Il est inclassable, il a des partitions dessinées aussi, enfin il a touché à tout, littérature, il anticipe Fluxus, toutes les avant-gardes du début du XXe siècle, même années 50-60, Cage et compagnie.
Oui, mais je pense qu'il a délivré, ça c'est un mot qui est...
Dadaïste avant la lettre.
Ouais, c'est ça, mais ça c'est un mot qui est important dans le parcours de plein d'artistes, il a délivré des autorisations à d'autres. Qui ne les demandait pas forcément d'ailleurs, hein, mais il a dit moi j'ouvre la porte, alors maintenant vous y allez pas. Mais ça a permis effectivement à plein de créateurs, pas que des musiciens, de s'aventurer là-dessus.
Un
quoi.
Peu partout. Est-ce Incroyable. Que c'est le premier à avoir utilisé une machine à écrire dans la machine avant les futuristes italiens
Il semblerait, oui.
Oui, 1892.
Je suis pas sûr, mais il semblerait dans Parade.
Après, Russolo, c'est 1910, etc.
Il y a eu d'autres tentatives. Il y a eu Georges Anteil qui a essayé plein de choses aussi, avec des hélices d'avion, des fois. Enfin bon, c'est pas toujours pratique à mettre sur scène. Mais Satie, ce que j'aime bien en plus, c'est cet esprit minimaliste. Alors Dieu sait qu'après, on peut faire des parallèles avec les compositeurs américains, mais il y a vraiment ça. C'est-à-dire, c'est quand même l'imaginaire qui tricote.
Et drôle, et super drôle.
Ah ben super drôle, absurde, c'est du 14e degré. Mais c'est grinçant aussi.
Ah oui.
C'est de l'humour noir par moment.
Oui.
Mais ça, j'aime bien. Parce que l'opéra, l'opéra aujourd'hui, quand on, comme on le fait, bon, mon Dieu, il ne faudrait pas que le directeur m'écoute là, parce que c'est quelqu'un qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Et voilà, très bien. Serge, bonjour. Mais voilà, je trouve que l'opéra restitue toujours, effectivement, une dimension très codifiée. Mmh. La mise en scène peut être passionnante. La partition, elle est quand même très.
Il faut qu'elle soit carrée.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas évident de laisser l'imaginaire faire des grands bonds dans la tête. Mmh, tout vous est quand même donné. Avec beaucoup de moyens,
bloc.
Et voilà, un petit peu plus de créativité, un petit peu plus de prise de risque des fois sur le vide qu'il pourrait y avoir sur scène, ce serait bien.
Voilà. Je vous ai laissé commencer à évoquer Satie parce que j'étais en train, Gérald, d'essayer de diffuser ton
vinyle.
Ton vinyle.
Le parade.
Je n'y parviens pas. Alors
bon, c'est pas grave.
On va réessayer
une
ensemble. Mais
en attendant.
On a manqué parce qu'il restait encore des questions à poser à Philippe Forget lui-même et non pas pour évoquer Eric Satie. Il restait des questions à poser. Je ne sais pas si on a encore le temps ou si même vous souhaiteriez répondre parce que votre carrière, par exemple, est-ce que forcément avec. Non, mais avec ces goûts que vous avez, parce que moi, je me dis un poste dans une maison. Lyonnaise, lyrique, n'importe, française, ça pourrait vous plaire ou pas? Parce que non, vous n'êtes pas en poste. Vous êtes,
non, je ne suis pas en poste. J'ai choisi de ne pas être en poste.
Itinérant, nomade.
Là, dans les semaines qui viennent, je vais me balader à Thessalonique, parce que je suis chef associé à l'Orchestre National.
Vous
là-bas.
Rentrez de New York. Donc
oui, voilà. Après, je vais me retrouver à Hong Kong pour diriger un ballet.
Vous êtes à Limoges parfois aussi.
Mais j'adore. Alors voilà. Alors ça, c'est une maison que j'ai appris à découvrir.
Le grand théâtre lyrique.
Ben oui, mais alors pour les gens qui vont avoir un petit sourire en coin en disant Limoges.
Ah, mais moi, cela m'est arrivé, j'ai été à Limoges, mais j'ai vu de très belles choses.
Et, la salle, mais quelle splendeur que cette salle, avec une acoustique, c'est super d'avoir un outil comme ça. Donc j'ai plein de très beaux projets avec l'Opéra de Limoges, en tant que compositeur, en tant que chef, et je suis très content. Et en plus, il y a une tradition dans cette ville que la culture vivante soit réellement, totalement accessible à tous. C'est pas un vœu pieux, une phrase politique, c'est réel. De toute façon, si on leur enlevait ça, je pense que le fonds de commerce, il s'écroulerait très vite. Donc, ils sont dans une réalité de renouveler des publics et d'inventer des formats. Et le directeur est quelqu'un de très créatif et qui fait vraiment confiance dans ce sens, Alain Mercier. Donc, moi, je suis très content d'aller à Limoges, après Hong Kong et Thessalonique.
Thessalonique, ce sera Roussel, c'est ça?
C'est un programme, c'est un programme de musique française avec Bacchus et Ariane de Roussel, La Valse de Ravel, voilà.
Mais et alors, par exemple, Limoges, avoir le poste permanent là-bas, cela. Non, enfin, ou de toute façon, c'était en tant que compositeur davantage ou chef d'orchestre aussi?
Non, ce serait. Allons-y, il y a un poste de directeur musical qui va se libérer bientôt.
Ah.
On verra, je sais pas.
Votre dernière belle rencontre qui va vous amener en tournée partout, sauf à Lyon, malheureusement.
Oui,
alors c'est quoi cette belle rencontre?
Eric Satie, bravo.
On va écouter peut-être un morceau, non?
Pour l'instant, moi, j'ai prévu Tendrement. Comme ça, ça permettra de faire une transition
bien,
avec
pas
Eric.
Bah, Tendrement, ça va bien aussi avec ça. Au mois de janvier, à l'Opéra de Limoges, on a fait un concert. Je m'attendais pas du tout à vivre ça, de cette intensité-là, avec l'orchestre de l'opéra et avec Jane Birkin sur l'album qu'elle a sorti il y a 2 ans, Gainsbourg Symphonique. Donc, c'est 23 titres de Serge Gainsbourg. Bah, on connaît les relations de Birkin et de Gainsbourg, bien sûr. Voilà. Et l'orchestration, c'est un bijou. Et la rencontre avec Jane, ça a été incroyable. J'avais jamais fait ce genre d'exercice, donc je savais pas trop. C'était un bonheur. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. La salle était super émue. Et du coup, on va se revoir. Je crois qu'il y a 12 ou 13 dates en cours, là. Donc, les Francofolies à La Rochelle, une tournée à Paris, Île-de-France. Et la seule date de cet été que je ferai pas, c'est celle de Lyon.
C'est une fourvière, je l'ai sous les yeux.
Qui a réorchestré, alors, tous ces morceaux?
Alors, c'est un pianiste, compositeur japonais qui s'appelle Nobuyoshi et qui a fait des merveilles. C'est-à-dire, c'est très respectueux de qui est Jane aujourd'hui. C'est un très bel écrin de timbres, de couleurs très chaudes, très automnales, très très poétiques. Et elle pose la voix à l'intérieur et voilà, et tout se met en œuvre. C'est une orchestration super intelligente et très très subtile.
Orchestre dans son ensemble, pas de guitare électrique, pas de batterie, c'est vraiment une forme classique.
Non. Et en fait, le projet rend hommage aussi à la passion que Gainsbourg avait pour la musique symphonique.
Et puis il a piqué
la musique classique.
Il a piqué pas mal de thèmes.
Il l'avouait.
Ah, bien sûr, oui.
Donc on a les chansons. Autour de la 3e symphonie de Brahms, autour du Nouveau Monde de Dvorak, des préludes de Chopin, enfin tout ça se retrouve à l'intérieur.
Et oui.
Ah non, ça prend sens, c'est vraiment.
A beaucoup puisé, c'est logique même, c'est.
Ah
la boucle est bouclée, quoi.
Non, et puis le soir du premier concert qu'on a fait ensemble, il y avait un petit mot dans ma loge, c'était merci pour ton délicatesse. Alors je dis, au moins c'est cohérent, elle écrit comme elle parle, ça fait plaisir.
Elle a toujours pas.
Ce sera.
Le masculin et le féminin.
Auditeurs, si vous souhaitez y aller, vous pouvez tout à fait, ce sera le 17 juillet à Lyon, au Grand Théâtre, du moins, voilà. La scène principale des Nuits de Fourvière, mais si vous avez bien Jane Birkin sur scène, vous n'aurez pas Philippe Forget dans la fosse. Non, c'est pas la fosse.
Non, c'est pas la fosse. Dans l'espace. Mais à ce moment-là, venez au Francofolie le 15 juillet à La Rochelle. Ça me fera plaisir aussi.
Nous sommes prêts donc alors pour voilà, on parlait de tendresse à l'instant. Nous sommes
on
prêts pour
tendrement.
Tendrement dans une version de c'est une valse chantée, texte de Vincent Hispa, 1902, et la version que j'ai ici, ce n'est pas. Auditeur, ce n'est pas Philippe Forget qui va chanter, puisque nous n'avons pas de piano d'ailleurs. Au piano, moi la version que j'ai, c'est Nicolas Guéda qui chante avec Aldo Ciccolini au piano. Vous serez accompagné par Claude Stoll.
Bravo.
Bon, ben on va en parler pour le duo Florestan. J'ai trouvé la date du 17 juillet, ça c'est très bien, pour la venue de Jane Birkin, mais je cherche encore celle pour le rier sans qu'on sache. La première, mercredi 24, mardi 24 avril, ça nous le savons. La dernière, il y a 10 jours je crois, donc ça nous conduit
le 6 mai. Hein,
oui, c'est possible, samedi 6 mai, quelque chose comme ça. Auditeurs, on va chercher cela pendant cette belle valse chantée. 14h30, ne quittez pas, restez encore une demi-heure avec nous pour parler plus précisément de ce spectacle et puis écouter...
Et du délire de Satie.
Et écouter le délire de Satie, c'est ça, très bien. C'était Vincent Hispa qui a écrit le texte, mais la version que nous avions n'était pas de cette époque de 1902. C'est un enregistrement, je ne sais pas, Nicolas Guéda et Aldo Ciccolini. Nicolas Guéda, le ténor, Aldo Ciccolini au piano. Vous le savez, vous, Philippe Forget, notre invité, 1970 peut-être, j'ai sous les yeux, c'est ça, dans ces années-là.
Ah ben c'est magnifique, mais je ne suis pas convaincu que Satie ait écrit ça pour des voix très lyriques, très opératiques. Voilà.
Ah
ben non, c'était aussi l'esprit du cabaret.
ça manque de folie, c'est trop.
Ouais,
c'est trop lead là peut-être.
C'est pas assez parigo et c'est très léché, on va dire. Voilà, donc.
Comme un lead, c'est proche le lead.
Oui, oui, c'est pas loin du lead allemand ou de la mélodie française, très, très, très belle, mais oui, un petit peu.
Très pied-doigt en l'air.
Ah ben, il y a la tasse de thé qui est pas loin, hein, c'est sûr. Hein.
Donc ça, cela est très bien. Philippe Forget, après cette première partie dans laquelle vous avez évoqué ces nombreuses cordes que vous avez à votre arc, compositeur, je l'avais pas annoncé en début d'émission, chef d'orchestre, bassoniste, enfin ancien bassoniste. chanteur également, et donc maintenant nous allons parler plus précisément de ce spectacle.
Auditeur. Riez sans qu'on sache.
Riez sans qu'on sache, je vais en trouver précisément, je vais tout vous annoncer au Théâtre des Marronniers. Vous pouvez vous rendre sur le site internet théâtre-des-marronniers avec, attention, 2R et 2N.com. Ce spectacle, Éric Satie, Riez sans qu'on le sache, je crois que j'oubliais de mettre le sans qu'on le sache, du 24 avril effectivement au 6 mai. Théâtre musical, c'est une création. C'est une première. Le duo Florestan sera donc sur scène. Le ténor Philippe Forget, notre invité, au piano Claude Stoll.
Bravo.
Et le jeu, je vois qu'également il y a un comédien sur scène, Xavier Arlot. Scénographie d'Étienne Hiver, mise en scène de Xavier Arlot lui-même. Il y a un petit texte, je vous indique seulement, je ne vais pas lire ce petit texte, mais que, attention auditeur, un mardi 24 avril 20h30, c'est complet. Mercredi 25 avril 20h30, c'est également complet.
Déjà.
En revanche, les jeudis 26 et 27, etc., jusqu'au dimanche 6. Attention, dimanche.
La jauge est petite au marronnier.
17h.
Donc, il faut réserver.
Hein. Ce sera, a priori, pour l'instant, c'est encore libre. Dimanche 29, également avril, à 17h. Voilà, Philippe Forget, vous qui serez le ténor sur scène, je vous en prie. On n'a pas encore vu ce spectacle, hein, forcément, Gérald, non. Puisque aujourd'hui, 4 avril, on ne peut pas.
C'est une J'espère bien qu'on ira.
On n'a pas pu le voir nulle part auparavant ailleurs. Enfin, bref. Philippe, comment parler de ce spectacle? Est-ce vous qui êtes à l'origine? Est-ce Claude de ce duo Florestan que vous composez depuis déjà quelques années? Est-ce, voilà, comment
germe l'idée, le projet?
Est-ce Xavier Arlot qui vous a mis
qu'est-ce qu'on va écouter et
qui vous en
entendre?
A parlé?
Alors ça fait beaucoup de questions.
C'est celle que vous souhaitez.
déjà effectivement il y a de la scène, donc c'est pas du concert, c'est du théâtre musical, si on y va par là, pourquoi pas. Et donc il y a du théâtre, il y a de la musique, voilà. Et Satie, Satie c'est un drôle d'oiseau, hein, donc il y a des mots. Voilà, on pourrait même lire des choses de Satie sans avoir de la musique avec. On peut aussi écouter de la musique de Satie sans avoir ses mots. Mais c'est quand même un compositeur, un créateur, je préfère ça d'ailleurs, complètement inclassable. Donc moi, ça me permet d'associer un ami avec lequel je travaille depuis longtemps, qui est Étienne Hiver, pour la scénographie. Ça me permet d'associer un autre ami que j'aime beaucoup son travail, qui est comédien, metteur en scène, c'est Xavier Arlot. Et puis ça me permet de renouer encore et encore avec ma très chère Claude, avec qui effectivement on fait pas mal de choses depuis presque 10 ans. C'est-à-dire, y a plein de composantes différentes autour d'un objet artistique assez inclassable. Et en tous les cas, quand on dit Éric Satie, tout le monde a une référence. Ah oui, Satie, c'est super. Alors allons-y sur les titres de Satie. Ah, là, ça se gâte un petit peu. On sait que ça parle du Paris des années 1900, on sait que c'est entre deux mondes, on sait que c'est entre deux dimensions, on sait qu'il y a de l'humour, on sait qu'il y a plein d'entrées possibles. Et à nous de ne pas être trop didactiques et de ne pas faire la leçon, mais d'ouvrir des imaginaires complètement improbables.
Je vais seulement donner une entrée, moi, biographique, après je vous laisserai développer celle que vous souhaitez. Naissance de Éric Alfred Leslie Satie à Honfleur le 17 mai 1866 et décès. Peu après la naissance de Pierre Boulez, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, dans une obscure localité, je crois, ligérienne, me semble-t-il, c'était l'adjectif utilisé. Il est né à Montbrison, Fouillot, à côté de Saint-Étienne. Eh bien, décès d'Éric Satie, une cirrhose hépatique compliquée d'une double pneumonie, entraîne un séjour de 6 mois à l'hôpital Saint-Joseph, et il est emporté le 1er juillet 1925. Boulez, je crois, né le 5 mars, il me semble, ou 25 mars 1925.
Il n'est pas si jeune que ça, finalement.
Non, 25, une soixantaine d'années, un peu moins peut-être. Mais... Donc après ces deux éléments-là, moi je pourrais également citer, non, zut, vous n'avez emprunté les sports et divertissements que Raphaël Agéry nous avait apporté il y a quelques années pour les percussions clavier de Lyon. Je pourrais lire ces différents titres.
La journée d'un musicien, c'est quoi, pas mal, sur
journée,
une ancienne.
Elle est assez terrible.
Passera.
Moi, je ne sais plus que dire. Enfin, moi, je n'ai rien. Enfin, je peux très peu dire. Donc, je vous en prie, Philippe Forget. On va peut-être mettre un peu de musique. Mais vous, Éric Satie, comment le percevez-vous? Comment pourriez-vous en parler?
Mais il y a eu tellement de qualificatifs sur ce personnage. Alors, évidemment, quand on le voit représenté, il y a souvent la petite barbiche, les binocles, le chapeau melon, le col un peu raide, le parapluie. Il y a plein d'anecdotes sur le fameux parapluie. C'est un personnage. Alors, faut savoir qu'il a côtoyé tout le monde. Il a côtoyé Valadon, il a côtoyé Picasso, il a côtoyé Debussy, il a côtoyé Fauré.
Cocteau. Il écrit sur Stravinsky. Je ne sais pas s'il l'a rencontré aussi.
Mais... il écrit sur Stravinsky. Il est l'instigateur, on va dire, sans en être l'initiateur du groupe des Six. Enfin, je veux dire.
Auric, oui.
Bah oui, c'est pas rien quand même.
Poulenc, c'est.
C'est pas rien. Alors, avec Poulenc, il s'appréciait pas tellement.
Non.
Parce qu'il trouvait que. Alors, Poulenc, lui, se réclamait, faisant partie du groupe des Six, de sa filiation à Satie. Ils se sont rencontrés une fois et Satie a juste dit à quelqu'un. Moi, les fils à papa, ça m'intéresse pas. Voilà, donc ça c'était fait pour Poulenc.
Malgré Babar.
Bah oui, mais bon, c'était encore trop sage pour Satie, je crois, Babar. Et en fait, voilà, Satie, c'est cet inclassable qui ouvre des portes.
Ces gymnopédies, elles sont. Gnossiennes, elles sont quand même très sages aussi, non?
C'est ironique. Est-ce que c'est sage? Oui, voilà. Et puis, il y a aussi des images un peu équivoques, peut-être, de sexualité, de sensualité.
Scatologique, même.
Mais il peut y avoir des choses très surprenantes. Il peut y avoir des choses très, très surprenantes. Tous les cas, c'est de la provoque, mais c'est pas fait pour provoquer, c'est fait pour ouvrir des imaginaires. Il y a le fameux ballet parade Entracte et Relâche, et Entracte, il y a le film de René Clair qui va avec.
Qui est magnifique, avant-gardiste total.
Mais oui, il faut voir
avec
le
Duchamp.
Film. Complètement. Et Picabia.
Puisque... Et tous les dadaïstes de l'époque, comme par hasard,
mais
parce que c'est le grand-père dadaïste.
Oui. Et du coup.
Entracte, cinéma expérimental, pur jus. Hein.
Mais oui.
Les chefs-d'œuvre du cinéma expérimental.
Bah, on voit Picabia et Satie gambader comme des lapins autour d'un canon, voilà, ça commence comme ça, tout en voyant une danseuse qui en tutu et qui tourne. Au bout d'un grand moment, on se rend compte que c'est un bon barbu qui est dans le tutu, mais plus un corbillard tiré par un chameau.
Oui.
Il faut voir ça pour se dire « Ah ouais, quand même !» Ouais. Et c'est
avant un chien andalou d'ailleurs.
Avant Buñuel, exactement,
ouais.
Exactement. Non, mais c'est une expérience, mais on y prend goût à ce type d'expérience parce que ça vous laisse pas tout seul à la rue. On peut se raccrocher à de l'humour, on peut se raccrocher à des choses de provocation. Tous les cas, pour moi, c'est vraiment l'essence même de la poésie. C'est-à-dire, ça vient tout mettre en chaos. Chaos, c'est pas le néant. Hein, et ça vient tout reconstruire comme on a envie de reconstruire derrière. Mais ça ouvre des brèches tellement énormes que c'est assez grisant. Donc,
c'est très riche. Et là, c'est un grand mélodiste quand même, faut le dire, parce que ça reste vraiment dans la tête. Satie, tout le monde adore ses mélodies, les gnossiennes, les gymnopédies, on les connaît tous.
Mais
enfin,
c'est
moins quelques
un super
unes.
Musicien.
C'est ça.
Et quand on entend les gnossiennes ou les gymnopédies, on se dit, oh, c'est très beau, c'est très simple. D'accord. Alors on va se dire aussi que par exemple, le mouvement lent du concerto en sol de Ravel, qui paraît une telle évidence musicale, Ravel a dit, mais qu'est-ce que j'en ai souffert pour que ça sorte. La simplicité et la lumière, ça se décrète pas. Hein.
C'est ça.
Et Satie avait quand même cette chose aussi, il était capable de ça, mais il a voulu explorer d'autres voies. Ah, c'est une rencontre assez fascinante parce qu'en tant qu'artiste sur scène, ça nous oblige à nous dire qu'est-ce qu'on va créer. Le support du texte ou de la musique n'est qu'un point de départ et le reste nous appartient. C'est pas quelque chose comme, peut-être dans certains ouvrages d'opéra, on sait quel est le point de départ, la dramaturgie. Au fait, du Puccini, c'est terrible, parce que Puccini, il dit tout. C'est-à-dire, si je prends un chandelier, ta-ta-ta-tam, la musique dit que je prends un chandelier. Si je m'assieds sur une chaise, pom, pola, pom. Voilà,
Puccini dit tout, Wagner radote.
Aussi. Mais c'est presque de la musique de cinéma avant l'heure. On est dans le commentaire sonore des fois. Ça enlève pas la qualité, mais là où Satie nous laisse, paf, à l'entrée d'un monde, il faut que l'esprit continue à réfléchir et à se créer ses propres schémas. Ça, c'est vraiment très riche.
Alors concrètement, c'est une forme ouverte. Vous avez sélectionné un certain nombre de chansons qui sont, on va dire, articulées avec des poèmes ou des textes.
Il y a un comédien voilà, sur scène.
Alors,
Xavier Arlot est sur scène.
Sans trop spoiler
le
spectacle.
Je vais rien spoiler, mais je vais vous dire ce que Xavier a imaginé. J'ai trouvé ça génial. Juste ça, il a imaginé qu'il y ait deux Satie sur scène. Il sera un des Satie, moi je serai l'autre. Et en fait, il y a le Satie chauve et le Satie pas chauve. Voilà, donc là, je crois qu'on est bien
ça
respectueux.
Ça donne le ton. C'est
voilà,
bien.
Puis on est bien respectueux de tout ça. Donc, rien que ça, on est content parce que Satie, il y a le côté grinçant, le côté ironique,
multiple.
Le côté provoque. Puis il y a le côté très profond. Très, très, très profond, un peu grave même par moment. Donc, il n'y en a pas un qui vient annihiler l'autre. Hein. Donc voilà, il y aura deux Satie sur scène. Voilà, ce seront deux Satie en scène.
Et prometteur.
Et puis cette proximité avec le public au théâtre.
Alors, c'est merveilleux, ça. Hein, pour avoir assisté au dernier spectacle de Fréchuret autour de Rimbaud, c'est magnifique. Il y a 30 personnes, on est vraiment. On vit intensément ce qui se passe sur la scène, qui n'est quasiment pas une scène, puisqu'on est. quasiment de plein pied avec le.
Mais ça fera partie de la bande-annonce, mais il y a un moment donné, il y a un texte, un très beau texte de Satie sur le fait que dans ses petites habitudes à Arcueil, il mangeait un Saint-Honoré très régulièrement qu'il allait acheter à la pâtisserie. Voilà. Donc, un des deux Satie va se mettre vraiment à 10 cm du premier spectateur pour manger goulûment un Saint-Honoré. Ah. Voilà. Rien que ça, ça devrait faire venir.
On mangera quelques miettes peut-être.
Il ne restera rien.
Pour prolonger, on pourrait se mettre dans l'univers de Satie en écoutant La journée du musicien, extraite des mémoires d'un amnésique.
Moi, il
chanté
pas le vinyle,
chanté par Jean-Luc de Baptiste.
Je tente le vinyle, ça ne fonctionne pas.
C'est pas grave, on va mettre la piste 17 alors.
Très bien. Tu la connais cette journée du musicien?
Oui, j'ai déjà écouté.
Oui, mais le.
Ah ben non, mais on va laisser découvrir. Nos auditrices et auditeurs.
Il y a un passage qu'il faut lire. Ce qu'il consomme, Eric Satie.
Eh ben, c'est ce qu'il va dire. On va l'écouter.
Oui, et ce sera bien clair. Bon, alors, si ça n'est pas clair.
C'est pas la peine. On aura une petite gnossienne en plus. Oui, c'est une petite gnossienne en dessous. Ce sera pas mal.
Très bien. Donc,
édition, c'est la fameuse excellente collection éponyme Voix et Poésie avec les Poètes du Chat Noir dans la compilation Les Poètes du Chat Noir, puisque Satie a été pianiste au Chat Noir. L'accompagnement.
Voici l'horaire précis. Et de mes actes journaliers. À 7h18, inspiré de 10h23 à 11h47. Je déjeune à 12h11 et je quitte la table à 12h14. Salutaire promenade à cheval dans le fond de mon parc de 13h19 à 14h53. Autre inspiration de 15h12 à 16h07. Occupations diverses, escrime, réflexion, immobilité, visite, contemplation, dextérité, natation, de 16h21 à 18h47. Le dîner est servi à 19h16 et terminé à 19h20. Viennent des lectures symphoniques à haute voix de 20h09 à 21h59. Mon coucher a lieu régulièrement à 22h37. Hebdomadairement réveillé en sursaut à 3h19 le mardi. Je ne mange que des aliments blancs, des œufs, du sucre, des os râpés, de la graisse d'animaux morts, du veau, du sel, des noix de coco, du poulet cuit dans de l'eau blanche, des moisissures de fruits, du riz, des navets, du boudin camfré, des pâtes, du fromage blanc, de la salade de coton et de certains poissons. Sans la peau.
Je fais bouillir mon vin que je bois froid avec du jus de fuchsia. J'ai toujours bon appétit, mais je ne parle jamais en mangeant, de peur de m'étrangler. Je respire avec soin, mais peu à la fois. Je ne danse que très rarement. En marchant, je me tiens par les côtes et je regarde fixement derrière moi. D'aspect très sérieux, si je ris, c'est sans faire exprès. Et je m'en excuse toujours. Et avec affabilité. Je ne dors que d'un œil. Mon sommeil est très dur. Mon lit est rond, percé d'un trou pour le passage de la tête. Toutes les heures, un domestique prend ma température et m'en donne une autre. Depuis longtemps, je suis abonné à un journal de mode. Je porte un bonnet blanc, des bas blancs et un gilet blanc. Mon médecin m'a toujours dit de fumer et il ajoute à ses conseils « Fumez, mon ami. Sans cela, un autre fumera à votre place. »
Oui, oui, Gérald, effectivement, on va en rester là, on va couper. Éric Satie, ce n'est... Enfin, nous ne savons pas, Philippe Forget ne veut pas nous dire si ce sera bien dans le spectacle Riez sans qu'on le sache, du 24 avril au samedi 6 mai, on a bien vérifié cela. Mais
voilà,
je crois que ça donne une idée un peu du personnage, de cet auteur. C'est un texte donc qu'il a écrit, l'a-t-il publié, on se le demandait peut-être, dans une revue musicale, je crois qu'il y avait une sorte de soutien un petit peu qui lui était apporté, parce que sa vie était...
Ah, tout le monde lui donnait à manger. Il y a eu un excellent documentaire qui est passé sur Arte il y a quelques années, rediffusion, on le trouve en DVD, et vraiment très très bien fait, de facture, des trucages, des effets spéciaux, et qui raconte toute la vie, l'œuvre, et une vie très étrange. Hein.
Quand il est mort dans son petit appartement à Arcueil, alors il n'y avait pas l'eau courante, fallait qu'il descende aller chercher de l'eau. C'était aussi un choix qu'il avait fait de rester en dehors de Paris intramuros, donc à l'extérieur plutôt. Et en fait, il y avait 7 costumes dans sa penderie, c'était 7 fois le même costume.
Identique, voilà.
ça en dit long aussi.
Paraît-il, on aurait découvert tout un tas de lettres, mais beaucoup de lettres non décachetées.
Mais c'est pas
possible. Ça, enfin du moins, il les recachetait parce que il faut bien, puisque a été publié Ornella Volta, je crois que c'est la grande spécialiste d'Éric Satie, puisqu'il y a un musée où il y a une maison Satie à Paris même, ou peut-être à Arcueil, enfin du moins dans les environs, et avec des archives Satie. Mm-hmm. Et cette femme est la spécialiste. Elle a écrit différents livres, pas forcément une biographie. J'en ai une de Armango qui est pianiste également, je crois qu'il interprétait du Satie, Jean-Pierre Armango. Donc Ornella Volta a écrit. A publié une correspondance presque complète, donc il écrivait énormément, mais et on lui écrivait aussi. Enfin, il lisait forcément ce qu'on lui écrivait. Enfin, ou quoi que non, on peut se poser la question. Un personnage vraiment très étrange.
Un dandy misérable et génial de son époque, que tout le monde connaissait.
Une forme de dichotomie aussi chez lui, parce qu'il avait besoin d'être reconnu dans les milieux parisiens. Il fréquentait les milieux parisiens. Il interdisait qu'on le raccompagne jusqu'à chez lui. Donc il voulait bien éventuellement qu'on lui paye un fiacre pour aller jusqu'à, je sais pas, Porte d'Orléans, quelque chose comme ça. Il finissait à pied.
Il vivait ses secrets.
Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une part, il faut se montrer un peu en public et puis aller chercher un peu de cette reconnaissance dont on a tous besoin. Mais après, sa vie du quotidien et presque sa vie d'artiste qui réfléchit et qui crée, c'était en dehors des murs. Et on sait qu'à Arcueil, il était connu, il a aidé, il organisait des goûters pour les enfants. Alors imaginez aujourd'hui si un adulte organisait des goûters pour les enfants, il serait taxé de... Voilà. Mais donc, il organisait plein de choses et il était présent dans sa petite commune d'Arcueil. Voilà. Tout le monde savait que malheureusement, il était plutôt porté sur la boisson, que c'était un drôle de personnage pour tout le monde en fait. Il y en a qui sont venus vers lui pour porter de l'aide, il n'en voulait pas vraiment non plus. Bon, c'est très compliqué, très compliqué. personnage complexe, aurait sûrement fait le bonheur d'un régiment de psy, mais qui a trouvé aussi les moyens d'une expression complètement unique. Incroyable et unique. Mmh. C'est un immense artiste du XXe siècle.
Mmh. Et alors, le spectacle est-il tout à fait prêt? Là, vous avez les répétitions sont achevées.
Nos réputations sont achevées aussi. Oui.
Je confirme. Non,
je n'ai pas eu ce lapsus. J'ai bien dit répétition. Vous avez mal entendu. J'ai bien prononcé
on est deux,
répétition.
En tout cas.
Ce n'est pas la vérité.
J'espère plusieurs.
Donc vos répétitions sont-elles bien tout est fin prêt? Parce que là, nous sommes à quoi? J-14, moins deux semaines? Non, davantage, ouais. Puisque c'est le 24. On est le... Le 4, le 3, oui, c'est ça, 3 semaines. Voilà, J-3 semaines, donc tout
alors,
est prêt.
Chacun dans son domaine propre des 4 artistes qui participent à spectacle, chacun est prêt. Maintenant, c'est ça qui est bien aussi, c'est que les marronniers nous offrent une période de résidence. Ah. Et ça, c'est tellement bien quand on peut investir un lieu, pas juste arriver à 15h pour jouer à 20h, voilà, mais d'investir le lieu et de voir comment il réagit, comment il vibre et comment on peut se situer, nous, à l'intérieur. Donc, on arrive aux marronniers. On va bientôt arriver au marronnier pour travailler dans ce lieu.
Je cherche toujours à faire marcher ce vinyle. Ça va fonctionner.
Ah, parade, ça serait pas mal. Hein.
Ce serait trop dommage que
ça ne marche pas. Il doit marcher, c'est la piste qu'il faut trouver.
Je ne sais pas comment activer cette chose-là. Durée de ce spectacle, peut-être pourriez-vous l'indiquer, oh, une petite heure.
Oui, une heure quinze.
Pas d'entracte.
Ah non.
Non.
Non. Par contre, là, je vois dans les extraits de texte de Satie, chose qui m'avait beaucoup fait rire aussi, c'est par exemple, il s'est servi d'un phonoscope. Donc il a créé le phonoscope, et le phonoscope, en fait, ça lui sert à étudier la taille et le poids des notes de musique. Donc là, il examine un si bémol de moyenne grosseur, oui. Et il le voit, il trouve ça très répugnant. Voilà. Mais j'adore.
Un animalcule.
Ben oui, voilà, c'est ça. J'adore qu'on puisse étudier un si bémol sous phonoscope.
C'est des idées géniales.
Puis qu'on le trouve pas beau, quoi. Qu'est-ce qu'il est moche, ce si bémol. Voilà. Donc on va le relâcher, peut-être après, je sais pas ce qu'on va en faire.
Il ira gambader sur quelques partitions.
Oui, c'est ça.
Azimuté.
Il va aller s'accrocher quelque part. Mais c'est des idées géniales, quand même.
Ouais.
C'est des idées géniales.
C'est un spectacle, il faut quand même peut-être le dire, drôle, hein, je suppose, non? Riez sans qu'on le sache, pas forcément. Oui, c'est
tout est dit.
Ça veut dire qu'on peut y aller avec des enfants de 10 ans.
Mais oui, bien sûr.
8 ans.
C'est ça que je trouve
à
aussi.
À partir de quel âge? 77 ans.
Moi, je dirais 7-8 ans. Ouais. Franchement. C'est-à-dire, je pense que franchement, il y a cette dimension dans les textes et la musique de Satie. Il y a plein d'entrées possibles. Voilà. Il y a plein d'entrées possibles.
Une autre entrée encore, ou on diffuse autre chose
diffuser. Moi, j'ai une toute petite annonce à faire. Je peux la faire maintenant et on finit avec Satie.
Oui, il faudra mettre d'autres. Peut-être pas les mélodies sans parole. Si, les mélodies sans parole, on peut en mettre.
Vraiment, j'adore Allo, on peut essayer aussi.
Parce que les
cabaret
annonces,
improbable.
Oui, on peut annoncer les grands concerts. Il y a le Dixit Dominus ce jeudi 5 avril, mais je crains, auditeur, que ni Gérald ni moi ne puissions y aller. Donc, bien vous, allez voir Jean-Christophe.
Pour une fois, vous irez à notre
Jean-Christophe
place.
Spinozzi, c'est ça, Gérald, un Jean-Christophe Spinozzi qui dirige, je ne sais plus quel ensemble c'est, mais Éric Desnoux, spectacle grand concert, gage de qualité. Oui,
ah
dans
oui,
la chapelle de la
magnifique.
Trinité, à 20h.
Ah oui, Dominus, ça peut être que bien,
tu
et puis le cadre est tellement beau.
Tu connais cette œuvre, toi, de Handel?
Le Dixit Dominus? Ah oui, il est magnifique, grandiose.
Bon,
je vais pas faire le...
Je confirme.
Je vais pas chanter. Ça commence très très fort.
Moi, c'était tout.
Et ça finit très fort aussi.
Moi, c'était tout ce que j'avais à dire. Sinon, on aurait pu annoncer La Belle au Bois dormant de Philippe Forget, mais ça a déjà été joué. C'était en janvier dernier ou même décembre. Non, janvier, je crois.
La Belle au Bois dormant.
Belle au Bois dormant
oui,
de Torino Respighi.
Absolument. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'on a pu accueillir pendant une représentation l'arrière-petit-neveu Respighi, qui s'appelle Norberto Respighi. Donc c'était rigolo d'accueillir Monsieur Respighi venant écouter, c'était très sympathique.
Mm-hmm. Toi Gérald, ce sont des arts.
Alors,
je vais chercher une autre mélodie. Une mélodie
très brève, avant de finir en beauté avec Satie et en délire. J'ai eu la chance d'aller à un vernissage, puisqu'il faut savoir qu'un de nos précédents invités, Francis, qui était venu nous parler du Bal des Ardents, cette excellente librairie lyonnaise, qui a été galerie pendant des années, il avait cessé de faire la galerie, et hier, il y a eu de nouveau l'inauguration d'un nouvel espace galerie, qui est très très bien.
Ils sont devenus librairie à l'Auditorium, le Bal des Ardents.
Aussi, ils ont beaucoup de cordes à leur arc, ils invitent plein d'invités exceptionnels, c'est une des meilleures librairies de Lyon en termes de curiosité, de découverte, de stock, je dirais même. Et donc maintenant, il y a de nouveau une galerie, et j'ai eu la chance hier de voir une très très belle expo d'un dessinateur, on découvre pas des grands dessinateurs tous les jours, qui s'appelle Nilsson, qui est assez, qui est connu, plus ou moins connu, en tout cas, allez voir cette exposition jusqu'au 24 avril, à l'horaire d'ouverture de la librairie qui se situe donc rue Neuve. Et vous pouvez réécouter l'émission quand on avait fait la fête du Bal des Ardents, on avait fait une spéciale émission, Bal des Ardents. Donc je vous fais rapidement le petit texte, qu'on déposera sur le site d'ailleurs, mais quand même. Donc de revue en festival, Nilsson participe à l'essor d'une bande dessinée de création, née des expérimentations d'auteurs-éditeurs s'emparant des techniques de production et de diffusion sur le modèle des labels indépendants de rock qu'il apprécie tant. Le personnage de Jérôme d'Alphagraph, né en 2000, dans le numéro 0 du fanzine hebdomadaire chez Jérôme Comics, Nilsson y improvise les aventures d'un apprenti libraire qui découvre le monde à travers les livres et les voyages. Œuvre emblématique partagée par bien des amoureux des livres, Jérôme d'Alphagraph, comme les livres de Robert Walzer, excellent écrivain, comme chacun sait, auquel il faut souvent, il fait souvent référence, est un incontournable. 5 tomes sont parus aux éditions FLBLB et un 6e aux éditions Les Contrebandiers. Et vous avez pu redécouvrir Nilsson plus récemment au Bal des Ardents avec ses cabanes, catalogue d'une exposition chez Michel Lagarde, ou encore Gros Ours et Petit Lapin chez Misma. Moi, j'ai trouvé un petit catalogue, donc collection 24, l'employé du mois. C'est Nilsson qui fait les dessins et Marie Sort qui écrit les textes. Et c'est très beau, c'est dans la lignée, c'est un dessin très très achevé, très pointu, d'une beauté assez terrifiante, au Rotring 0,01, des heures d'acharnement sur des rochers, sur des cabanes, sur des bois, des sous-bois. On y croise tous les grands maîtres du paysage de tous les siècles. C'est très étrange parce que ça reste personnel et en même temps c'est une technique imparable. Je peux que vous inviter à y aller parce qu'il y a aussi des dessins à la fois qui frisent la bande dessinée, le dessin indépendant. On recroise tous les maîtres, hein, des Rubens, des Poussin, des Théodore Rousseau, de plein air, des pleinairistes 19e. Mais on pourrait aller chercher Cosens, Segers du 17e, les inventeurs du paysage aléatoire à base de tâches. Bon, c'est un graphisme très répétitif qui nous porte, qui ondule. C'est très impressionnant. Il fait des dessins qu'on dirait sortis d'une galerie d'art contemporain en même temps. Donc c'est un petit espace. Je vous invite à y aller, d'autant plus que bientôt il y aura aussi une exposition des affiches de mai 68 avec une rencontre dans le cadre de Lyon en lutte dans les années 68. Ça sera pour plus tard. Donc il y aura une nouvelle exposition du 25 avril au 26 mai, un nouveau vernissage. Donc une nouvelle galerie dans une excellente librairie à Lyon réouvre ses portes. Et allez voir Nilsson et lisez-le.
Philippe Forget, laquelle des 4 petites mélodies est-ce que je peux mettre pour terminer l'émission? L'élégie, Alphonse Lamartine, danseuse, chanson ou bien adieu? Et ça dure 30 secondes chacune de ces.
Ah bah elles sont petites, hein, c'est
vraiment.
Petites, hein.
Ah oui, les toutes
danseuse,
petites
danseuse,
mélodies.
Danseuse,
danseuse. Alors je ne vais pas la mettre tout de suite, hein, parce que si je la lance, ben on va. La danseuse, tout d'abord, on ne pourra pas la rattraper.
Les deux premières alors.
Oui, alors voilà, on va peut-être en mettre deux. Et le temps que j'annonce, auditeur, pas de générique, parce que voilà, pas de générique, pas non plus d'émission la semaine prochaine, ni d'émission la semaine d'après.
Ouais,
voilà, c'est on fait relâche. C'est du Satie, ça, non? Entracte, parade, relâche, c'est ça,
voilà,
je crois.
Relâche.
Donc
c'est
faisons relâche.
Du
on va
du vinyle que nous n'aurons pas réussi à écouter aujourd'hui, mais.
Mais il diffuse, hein, pourtant.
C'est très Satie, c'est de ça.
Voilà, bah voilà.
On annonce un disque pendant une heure et on
l'écoute. J'entends le silence. J'entends le son sortir. Pas marché. Philippe Forget était notre invité. Ténor, il chantera donc ce spectacle Riez sans qu'on le sache au théâtre des Marronniers du mardi 24 avril au samedi 6 mai, 20h30 en soirée, 17h les samedis, dimanche peut-être plutôt, je crois. Qui relâche les samedis. Voilà, relâche, c'est très bien. Écoutons donc, je vais lancer ces 4 petites mélodies et puis ensuite le blues des canuts est prêt. Pascal est déjà là, prêt à lancer son générique. Donc ne dépassons pas davantage. 15h, mon Dieu, il est temps de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Philippe.
Merci beaucoup.
Il faudra qu'on se revoie entre Thessalonique, Limoges, Bamako, Los Angeles, Hong Kong. Voilà, et New York. Et puis Gérald, on se dit mercredi 25 avril pour peut-être le théâtre de la Croix-Rousse, peut-être parler du spectacle Si loin, si proche d'Abdelwahab Sefsaf, sinon un autre spectacle et différentes choses.
Encore,
auditeurs, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu, restez aussi, lisez le blog pour vous tenir au courant de différentes choses. Et puis c'est tout. Donc au revoir tout le monde, nous diffusons du Satie pour terminer parce que c'est nécessaire. C'est bien Satie. Au revoir Philippe, merci.
Au revoir.